9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Quelques jours avant Noël, le 21 décembre 1720, à Paris, donc sous la régence de Philippe d'Orléans, le petit roi Louis XV n'a que 11 ans, nous sommes dans le quartier des Halles, et un jeune homme, il n'a pas 30 ans, il est fluet, brun, avec des cheveux un peu longs et les yeux noirs, pour autant qu'on puisse distinguer, parce qu'il est 9h du soir, ce jeune homme est en train de musarder, l'air de rien, une canne à la main. Il croise un officier de l'armée royale qui lui porte son épée à garde d'argent. Alors, immédiatement, le promeneur se retourne, flanque un grand coup de canne sur le crâne de l'officier qui s'écroule et en un tour de main, l'agresseur lui retire son ceinturon et son épée et le voilà qui disparaît du côté du Pont Neuf. L'officier finit par revenir à lui. « À l'aide !» crie-t-il au voleur, « mon épée !» Voilà qu'une patrouille de guet accourt. « Là-bas, il est parti par là-bas !» Les soldats se lancent à la poursuite du voleur, ils sont eux aussi rapides, ils vont réussir à le rattraper, ce qui fait que pendant ce temps-là, le voleur s'est débarrassé de son butin, seulement les gardes se sont dispersés pour bloquer toutes les ruelles. Voilà le jeune homme pris au piège, il regarde les immeubles autour de lui, pas de fenêtre ouverte où il pourrait se hisser, c'est fini. On lui met la main au collet et direction la prison de Fort-l'Évêque, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est la prison des petits délinquants. Sur insistance de la victime, on le présente directement devant le commissaire. Et ça y est, c'est l'interrogatoire. Quel est ton nom ? Delamarre. Delamarre, vraiment. Ne serais-tu pas plutôt Cartouche, Louis-Dominique Cartouche ? Oui, oui, je crois bien que c'est toi. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un ordre d'arrestation attaché à l'affaire de Mondelot. Un bien vilain meurtre, ma foi. Oh, je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, moi, je le sais. Tu as plus d'un tour dans ton sac et plus d'une affaire sur le dos. Je saurais te faire parler, toi et tes frères et le commissaire. A tout à fait raison. Il vient de mettre la main sur le bandit le plus recherché de cette période de la Régence. On lui reproche à ce Cartouche toutes sortes de vols, d'agressions et même de meurtres. Il faut vous dire que ce garçon a chapardé depuis l'âge de 12 ans avec la plus grande agilité. Il a volé à la tire, à la roulotte, à l'étalage. Son père, qui était tonnelier, a essayé de le faire interner, mais il s'est échappé à temps. À un moment, il a été indicateur pour la police. Et puis, il est entré dans une armée. Et au retour de la guerre, il a monté sa propre bande de malfrats qu'il s'est mis à diriger d'une main de fer. Une main dont on ne doit pas oublier de dire qu'elle est volontiers cruelle et brutale. La bande est devenue une véritable entreprise. Les cartouchiens, comme on les appelle, seraient au nombre de 2000 si l'on en croit les gazettes, avec toutes sortes de complices, d'informateurs, partout, des receleurs, dans les boutiques, les grandes maisons, y compris au sein de la police. Bref, c'est une véritable gangrène et on prête à Cartouche toutes les audaces, toutes les provocations. La police, notamment, le soupçonne d'avoir assassiné un policier qui s'appelait l'inspecteur Huron. Ça a eu lieu quelques jours avant cette arrestation. L'inspecteur enquêtait sur le meurtre de Mandelot, un ouvrier tanneur qui a été tué un mois plus tôt au cabaret de la Grande Pinte. L'inspecteur Huron était remonté comme ça jusqu'à Cartouche. Il le filait. Il l'a retrouvé. Enfin, on a retrouvé ce Huron, là, cet inspecteur, poignardé dans une halle au blé. Ce qui veut dire quand même que le bandit est capable d'aller très loin. Et après ce meurtre, le bandit s'est caché au domicile d'un ami chirurgien. Et voilà comment il s'est retrouvé dans la rue, parce qu'il n'a pas pu s'empêcher d'aller se dégourdir les jambes, d'aller suivre sa pente et de voler à cet officier cette épée au pommeau d'argent.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Pour plus de sûreté, à la garde devrais-je dire plutôt que pommeau. Pour plus de sûreté, on le transfère donc à la prison du Grand Châtelet. Et là, on va l'interroger, le confronter à des témoins, aux victimes, aux complices qu'on a sous la main. Et évidemment, le garçon nie tout en bloc, y compris s'appeler Cartouche. On va le placer dans une cellule et on met dans la cellule deux moutons, vous savez, des prisonniers qui sont en vérité chargés de le faire parler. Et après quelques jours, on retrouve l'un des deux mort d'apoplexie. À cause de Cartouche ou bien à cause de la police, ça, l'histoire ne le dit pas. En revanche, l'autre va réussir à recueillir un certain nombre de confidences et faire son rapport au commissaire comme on le lui avait demandé. Cartouche lui a dit avoir tué un homme à la Grande Pinte, c'est le fameux meurtre de Mandelot. Il lui a dit avoir tenté de voler l'épée à Garde d'Argent et avoir pris le nom de Delamarre. En fait, le nom de Delamarre, c'était tout simplement le nom de sa mère. Et puis surtout, il lui a reconnu, en discutant avec ce mouton, il a reconnu avoir tué l'inspecteur Huron. Il a aussi évoqué plusieurs vols avec plusieurs complices. Et quelques jours plus tard, dans le bureau du commissaire, Cartouche est donc confondu par toutes ces charges. À ce moment-là, il se rue sur l'huissier, il arrache la déposition, la déchiquette, il va même tenter d'avaler le papier. Le commissaire et l'huissier sont pantois de ce qu'ils ont sous les yeux. Il va falloir tout recommencer. Cartouche n'a pas agi en pure perte. Hein. Il n'est pas aussi fou qu'il pourrait le paraître. La vérité, c'est que ça lui a permis de gagner un peu de temps. Le 2 mars 1721, en prison, les gardiens apportent la soupe dans les cellules et d'un seul coup, un brouhaha s'élève d'un côté. Ça attire les gardiens. Du calme, allez, du calme! C'est Cartouche, en fait, qui s'est entendu avec d'autres détenus pour organiser cette diversion. Pendant ce temps, il ouvre la porte de sa cellule avec une petite lime qu'un guichetier marron a laissé passer. Il se glisse dans les couloirs qu'il a parcourus 100 fois pour se rendre aux interrogatoires et que donc il connaît par cœur. Il avait remarqué une petite porte qui n'est pas verrouillée dans un coin d'un escalier. Il prend cette petite porte, descend l'escalier jusqu'à la salle des ordures des cuisines. Il attrape un tablier, un bonnet, une bassine de déchets et le voilà déjà qui traverse la cour comme ça avec sa bassine. Il y a un gardien qui lui dit « Dis donc, t'es en avance aujourd'hui ? Ordre de tout nettoyer !» répond Cartouche. Il y a des nouveaux qui arrivent, tu m'ouvres. Et incroyable mais vrai, le gardien lui ouvre. Et Cartouche est dehors. Et le voilà qui parcourt déjà pas mal de terrain sous un porche. Il abandonne sa bassine évidemment et son tablier. Et comme si de rien n'était, il repart et se précipite chez sa maîtresse Marie-Antoinette Néron. Ce qui veut dire que le bandit le plus recherché de la Régence et sur lequel on avait réussi à mettre la main a réussi à s'échapper. Le ballet pantomime Don Juan de Gluck par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah, déjà, on parlait beaucoup de Cartouche avant même son arrestation, mais là, maintenant qu'il s'est évadé, dans le petit peuple, hein, dans les bas quartiers, il est devenu un véritable héros. Il est celui qui arrive à résister aux autorités. On lui attribue bientôt des aventures fantastiques. Et la police du régent, se lance de son côté dans une véritable traque. L'évasion est suivie de ce qu'on appelle un cri public, c'est-à-dire une annonce officielle hein, qui est lue partout, aux quatre coins de Paris, sur les ponts, sur les carrefours. Gilles Henry, dans son Cartouche, qui est paru chez Talendier en 2001, raconte la scène, je le cite. « C'est un véritable cortège qui sortit du palais 20, archers à cheval et 60 à pied, avec un nombre proportionné de trompes et de tambours. Le premier cri eut lieu dans la cour du Mai, le second au carrefour Bussy et le troisième place de la Croix-Rouge. » Aujourd'hui, c'est le quartier de Sèvres-Babylone. « Les badauds étaient nombreux, massés devant les bâtiments des prémontrés, qui écoutaient « Au nom du roi, de par nos seigneurs du Parlement, est ordonné au nommé Louis-Dominique Cartouche, etc. » Et là, il y a un brouhaha, je cite encore Gilles Henry. « Une troupe armée de bâtons, d'épées, de pistolets se présenta et créa un tel moment de stupeur que le crieur s'arrêta, regarda le guet et, devant l'attitude résolue de la bande, préféra arrêter son annonce et revenir au palais. » Tout de même, ça n'était pas glorieux pour la police. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est Cartouche lui-même qui a organisé, qui a orchestré tout ce tapage ? Il n'empêche, l'enquête progresse. La police arrête un certain nombre de ses proches, notamment son fidèle Vérel, son petit frère et encore adolescent, Louison. Cartouche, pendant ce temps, continue de prendre tous les risques. Et au lieu de se mettre au vert, d'essayer de se faire oublier, d'aller le plus loin possible, non, non. Il est là, qui reste à Paris, qui sort dans ses cabarets habituels, qui nargue les autorités. On le voit même dans un certain nombre de cafés, au café Palais-Royal. Et là, comble de l'ironie, il décide de se rendre au café de la Régence. Il est à court d'argent, alors il lui arrive de dormir dans des cabanes de jardin, à Courtille, qui est son quartier d'origine, à Belleville. Cartouche houspille ses équipes. Il demande à ses voleuses de redoubler d'activité sur les foires et les marchés, de se risquer dans les quartiers du Louvre et des Tuileries, c'est-à-dire qu'on s'approche vraiment au plus près du pouvoir. Le régent, à l'époque, réside au Palais Royal. Le 11 juin 1721, dans la nuit, accompagné d'une douzaine de complices, on le voit qui s'introduit dans l'hôtel des Marais. On est rue des Petits Augustins. Et c'est un hôtel qui regorge d'étoffes luxueuses, d'objets d'art, de bijoux. Vous imaginez bien, les voleurs assomment la cuisinière, raflent tout ce qu'ils trouvent de beau et de précieux et s'apprêtent à se retirer quand, soudain, une troupe de soldats cerne le bâtiment et lance l'assaut. Et ça y est, c'est la bataille, avec des coups de feu, bien sûr, des coups d'épée. Et dans la confusion, Cartouche se précipite aux cuisines, il se barbouille de farine, se déguise encore et traverse la cour. Il croise un gendarme, comme il avait fait quand il s'était enfui de la prison, et il pose la question au gendarme: « Est-ce que Cartouche est pris ?»« Non, pas encore !» répond l'autre. Cartouche dégaine son pistolet, il va abattre le soldat et une nouvelle fois, il va disparaître. Et les crimes et les vols en question vont se multiplier pas seulement à Paris, mais dans les environs et bientôt dans tout le royaume. Il y aura le meurtre du messager d'Angers, le vol de la diligence de Lyon, des casses dans les banques de Bordeaux et Toulouse. Et on ignore les auteurs de tous ces méfaits, sauf que maintenant, dès qu'il se passe quelque chose de terrible et dont on ignore l'auteur, on l'attribue à Cartouche, bien entendu, en tout cas aux Cartouchiens. Et la rumeur est en train d'enfler. Si tous ces vols restent impunis, c'est que Cartouche est de mèche avec le régent. Les Cartouchiens s'entendent avec le pouvoir. On dit même qu'ils se seraient rencontrés, le régent et Cartouche, en forêt de Saint-Germain. On raconte ça. Ça commence à ridiculiser le pouvoir, cette histoire. Il y a urgence maintenant à retrouver celui qui est devenu l'ennemi public. On diffuse des signalements dans tous les postes possibles, avec ordre d'interroger tous les mouchards, vous savez, ces gens qui sont infiltrés partout dans la foule et qui renseignent la police. On promet des récompenses et Cartouche est de plus en plus menacé, sauf qu'il règne par la terreur sur ses propres troupes. Je dis par la terreur, je vous donne une idée quand même, il arrive à faire tuer le fils d'un de ses complices pour dissuader le père d'aller parler. De ses propres mains, il va tuer un certain Bidel qui s'était mis en tête de le chasser d'un refuge. Il tue un autre policier qu'il surveillait, Pépin. Il tend un traquenard à son acolyte Lefèvre et le liquide de sang-froid. Et à côté de Cartouche, il y a une autre main qui assassine Lefèvre, celle de Grutus du Châtelet, qui est le plus fidèle lieutenant de Cartouche, qui est son associé, si vous voulez. Seulement, Grutus voit bien que les choses deviennent compliquées, les taux se resserrent, l'entreprise ne rapporte plus ce qu'elle rapportait, et puis surtout, Cartouche est devenu paranoïaque. Il est devenu dangereux. Le 14 octobre 1721, Grutus va se présenter au siège de la police et il demande à parler à un officier. « Je sais où est Cartouche, dit-il. Je suis prêt à vous le dire. Seulement, moi, je veux être gracié. » La demande immédiatement remonte jusqu'au régent, qui promet la grâce à condition que Cartouche soit effectivement capturé. Alors Grutus annonce « Cartouche et les autres sont à la Courtille, au cabaret, le pistolet, le patron, c'est Savard. » Le lendemain matin, il est 9h du matin, là, le 15 octobre, la troupe menée par le sergent Cortade encercle le cabaret Le Pistolet à Belleville. Le sergent s'avance devant l'entrée. Savard, le patron qui est en train de fumer dehors, est un peu interloqué. Le sergent demande « Il y a quelqu'un là-haut » Savard est un peu « Non », répond-il. « Et ces quatre dames, y sont-elles ?» Il parle de Cartouche et de ses amis, bien sûr, et Savard comprend à mi-mot. Il finit par dire, eh bien, montez. Et la suite, le sergent Cortade la rapportera dans son procès-verbal. Voilà ce que nous apprend l'histoire. Et Savard se rangea de côté pour nous livrer passage. Aussitôt, nous fîmes irruption dans la maison. Arrivés dans la chambre haute, nous trouvâmes Balagny et Limousin buvant du vin devant la cheminée. Gaillard était encore dans les draps et Cartouche, assis sur le lit de ce dernier, raccommodait sa culotte. Nous fondîmes sur eux, nous les liâmes, chacun dans l'état où il se trouvait avec de fortes cordes. Et faisant avancer deux carrosses, nous les menâmes d'abord chez Monsieur le secrétaire d'État de la guerre et ensuite au pied du Grand Châtelet. Évidemment, ils vont les emmener, ils vont les faire descendre et les emmener à pied pour exhiber la prise aux Parisiens, pour que la foule soit bien consciente de ce qui vient de se passer. C'est la fin de 8 mois de cavale pour Cartouche, qui pour autant ne s'avoue pas vaincu. « Je m'appelle Jean Bourguignon », dit-il. Non, non, Cartouche n'a pas dit son dernier mot. L'ouverture de Naïs de Rameau, l'ensemble Musique Eterna a été sous la direction de Théodore Courensis.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On ne parle plus que de Cartouche partout. D'ailleurs, il va y avoir 3 pièces de théâtre qui sont écrites et jouées à la Comédie Italienne, au Théâtre Français, vous imaginez, et parfois à guichet fermé. Et pendant ce temps-là, dans son cachot du Châtelet, Cartouche n'a pas renoncé. Il a repéré dans le milieu de la cellule une dalle qui sonne plus creux que les autres. Il arrive à détacher sa chaîne du mur et avec son côté tenu, il creuse une fissure autour de la dalle. Il arrive à la dessouder, à la faire bouger. Et la pierre finit par se détacher. On tombe un peu plus bas dans un trou d'eau. C'est pour ça que ça sonnait un peu creux. Alors les deux détenus élargissent le passage, ils descendent dans le trou, ils se retrouvent dans une sorte de canal d'évacuation des eaux usées, ils trouvent là un escalier qui va les conduire à la porte d'une cave, ils essaient d'ouvrir, ils cognent, seulement les bruits alertent un chien qui aboie et soudain la porte s'ouvre, il y a un homme qui est là avec un fusil qui les met en joue, sortez de là. Ils sont tombés dans la cave d'un marchand de fruits qui fait immédiatement appeler le guet. Et voilà comment Cartouche est repris et les archers le ramènent par la porte principale de la prison du Grand Châtelet. Il est doublement enchaîné cette fois. Et son procès va commencer. Il s'ouvre le 17 novembre, le procès de Cartouche et de ses 44 complices. « Je suis Jean Bourguignon de Bar-le-Duc », dit Cartouche en niant toute évidence. Je cite de nouveau Gilles Henry. « Il faillit se trahir car on cita sa mère comme témoin. Sur le point de la reconnaître, il s'imposa de ne pas réagir et de ne pas avoir l'apparence d'un sentiment dur avec cette mère, dur avec lui-même. Il voulait rester fidèle à cette image qu'il avait donnée à ses compagnons. » Et après 8 jours, Cartouche et 7 des complices sont reconnus coupables de meurtre, de vol, etc. Condamnés à avoir, je cite, « les bras, jambes, reins rompus vifs sur un échafaud en place de grève et mis sur une roue pour y finir leur jour. 2 autres seront pendus et évidemment, tous sont mis à la question pour essayer de leur soutirer d'éventuels aveux. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est donc le moment de la torture pour Cartouche, dont on va écraser les jambes et les bras avec des brodequins. Et malgré ces tourments atroces, il tient bon. « Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, dit-il. Je n'ai pas de complice. » Au moment de monter à l'échafaud tout de même, il murmure « Je suis un malheureux. Mon père et ma mère sont d'honnêtes gens. » Et il demande à parler au procureur pour lui tenir des aveux. Est-ce qu'il s'agit pour lui de se venger de ceux qui l'ont trahi ou plutôt de gagner encore un peu de temps ? En tout cas, les aveux vont être longs et même très longs. Et là, cette fois, il passe vraiment aux aveux. Hein. « Il est vrai que je m'appelle Cartouche, dit le jeune homme. C'est moi qui ai tué Pépin parce qu'il me suivait toujours. J'ai tué Huron après qu'il a tiré sur moi et m'a manqué. J'ai porté plusieurs coups d'épée à Mondelot. C'est moi qui ai tué Tanton, etc. » Et il avoue les vols, il livre les noms de ses complices. Au passage, il va disculper une ou deux femmes qu'il a aimées. Et le lendemain, place de Grève, dans le froid, c'est une foule énorme qui est là et qui se presse pour le voir mourir atrocement, les os brisés par le bourreau les uns après les autres. Et dans les mois qui suivent, encore 70 de ses complices, les fameux cartouchiens, seront arrêtés, jugés, condamnés. On peut dire de la Régence qu'elle est venue à bout de l'œuvre criminelle de Cartouche. Est-ce qu'elle est venue à bout du mythe populaire? Oh, ça, ce serait une autre histoire.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Pierre Anquetin d'avoir fait revivre Cartouche et de nous avoir permis de suivre sa traque. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck. Vous savez, quand je suis un habitué de rendez-vous, de déjeuner ou de rencontre avec Franck Ferrand, et quand Franck Ferrand dans une conversation vous dit « Ouh ça !» ce serait une autre histoire. Il ne faut pas repartir parce que vous restez au moins après un déjeuner, par exemple, on peut rester jusqu'à 19h. Et puis à 19h, on se dit, tiens, si nous dînions ensemble, et puis à ce moment-là, encore une autre histoire. Les histoires de Franck Ferrand.
Vous seriez bien en train de dire que je suis un peu bavard. Finalement.
Je n'ai pas dit ça. Je voulais souligner le fait que vous narrez très bien l'histoire. Et cet après-midi, d'ailleurs, vous nous emmenez du côté de 1942 avec une opération chariot qui concerne les Britanniques.
Ah, non, disons pas plus.
À 14h. Merci en tous les cas pour l'évocation de Cartouche, Brandy Héroïque. Et puis demain, un autre rendez-vous. Deux rendez-vous par matinée. Hein. Le point du jour à 8h05 avec David Deviker. Et bien sûr, à 9h, Franck Ferrand raconte. Bonne journée, Franck.
Bonne journée à vous, mon cher Christian. À demain.